Donc ce matin, nous sommes entrés dans le lieu du sacrifice. Et je crois que le plus important, c'est effectivement cette pensée de substitution et d'identification en mettant nos mains sur Christ. Voilà. Et en mettant nos mains sur Christ, nous l'avons condamné. C'est chargé de nos péchés qu'il a été à la croix. Je vais baisser un tout petit peu parce que je vois que... Voilà, ça va ?
Oui.
Bien, donc je rappelle ce que nous avons vu ce matin. J'espère que ça fonctionne. Donc les endroits importants, donc on a, vous rappelez, la courtine avec la porte... qui était exposé plein
est.
Plein est, de façon à ce que le soleil, quand il se levait, illuminait. Donc c'était facile de trouver le chemin, mais on entrait quand même que par la porte. Ouais. Pas de question de passer par autre part. D'accord ? Ça, c'est une leçon pour nous. On ne peut entrer que par Christ. Il est la porte, il est celui qui nous donne de pouvoir venir. Ensuite, on a vu l'autel des reins. Donc là où, effectivement, les animaux qui avaient été mis à mort, eh bien, une partie allait au sacrificateur, mais qu'il mange, mais une autre partie était brûlée. Et ça nous parle de Christ qui a été jusqu'au bout, qui a été consommé, hein, pas consumé, mais consommé tout ce qui était nécessaire afin que nous soyons sauvés. Ensuite, donc, la cuve des reins, hein, qui était donc... Alors, je n'ai pas dit ce matin, mais peut-être j'ai dit, je ne me rappelle plus, que... La cuve des reins était tapissée de miroirs offerts par les femmes.
Ouais.
Voilà. Donc c'était pour que les hommes puissent se voir. Peut-être qu'il y avait aussi une intention. Bon, bref. Donc toujours est-il que l'homme pouvait se voir. Et ça nous fait penser donc à un passage où il nous a dit que la parole de Dieu comme un miroir qui reflète ce que nous sommes et qui voit tous nos détails qui ne vont pas, simplement, j'ai dit, la coiffure, mais aussi l'état de notre cœur. Passage obligatoire pour pouvoir ensuite rentrer dans le lieu saint. Et là, tous les Lévites pouvaient entrer dans le lieu saint. Et il y avait donc dans le lieu saint trois choses. On a vu le chandelier à sept branches, ce chandelier qui devait être la seule lumière dans le tabernacle, comme Christ est la seule lumière dans l'Église. Il n'y a pas d'autre lumière, ni un homme, ni une pensée. Christ est seulement Christ. Ensuite, l'autel des parfums, et on a vu que le Christ était offert comme un parfum, mais nous aussi, il y a un passage qui nous dit de nous offrir. C'est dans Romains, chapitre 8, si je ne me trompe pas, de nous offrir à Dieu, de nous donner complètement à lui. Et puis ensuite, donc, on va voir maintenant l'Arche d'Alliance et le Saint des Saints, ou aussi le lieu très saint. Voilà, donc c'est la dernière étape, et cette dernière étape, il y a encore un rideau, le troisième rideau, et qu'est-ce que vous voyez sur ce rideau? Il est dit qu'il y avait, je vais le lire, parce qu'on en parle dans le Nouveau Testament, non, dans la Genèse, excusez-moi, il est dit, l'Éternel Dieu, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Alors, une idée importante, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mauvais. Des fois, j'ai entendu dire que c'était pour que l'homme pêche. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Mais ce n'était pas le moment. Il devait d'abord manger de l'arbre de vie, de façon à avoir la vie. Et la vie, c'est Christ. L'arbre de vie, c'est Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose qui vient plus tard. Et Paul nous dit d'ailleurs que c'est bon d'avoir ce don de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'arbre de connaissance du bien et du mal était bon, mais ce n'était pas le moment. Alors, donc, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Effectivement, si Adam et Ève avaient entré dans le lieu où il y avait l'arbre de vie, ils auraient eu la vie éternelle, mais en étant pécheurs. Donc Dieu va empêcher cela. Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins des chérubins, kéroubim, hein, brûlants, voilà, des brûlants. Et ces brûlants, eh bien, ils agitent une épée sur le chemin de l'arbre de vie. Et là, on a exactement ces chérubins que l'on voit ici. C'est une représentation, c'était peut-être pas tout à fait comme ça, c'est pas grave. Mais on voit qu'on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint parce que des chérubins gardaient l'accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, on va voir, donc c'est cet endroit où il y avait le propitiatoire. Donc on voit ici un lévite, hein, il est en train de faire des choses sur l'autel des parfums. Donc, une fois par an, alors vous voyez, c'est restrictif. Le peuple, dans le parvis, ensuite les lévites, dans le lieu saint, et enfin, une fois par an, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, habillé comme un lévite. Comme un lévite, c'est pour ça que c'est bien présenté, il n'a pas ses habits d'apparat. Il est vraiment comme un simple homme. Il rentrait une fois par an, et il versait sur cette plaque-là, au-dessus de ce coffre, eh bien du sang. Du sang pour le peuple et pour lui. Et l'arche, qui est ici, l'arche d'alliance, c'était là que la nuée, vous savez, on a vu cette nuée reposait. Et c'est pour ça qu'il y avait des anges, alors ils sont représentés comme ça, là, les bras ouverts, fermés plutôt, sur le propitiatoire, parce que c'était la résidence de Dieu. C'était un symbole, bien sûr, c'était un symbole. Mais c'est pour ça que, une fois par an, il y avait cette arche d'alliance qui était l'endroit le plus saint, le plus sacré de tout le tabernacle, de tout l'ensemble. D'accord ? Et donc il déposait une fois par an. Ce jour particulier, c'était le Yom Kippour, qui est traduit en français le jour des expiations. Donc tous les ans, le peuple savait que Dieu était propice, c'est-à-dire favorable. Le propitiatoire, c'est un mot un peu bizarre. Hein. Donc devenait propice au peuple parce que ce qu'il demandait était fait, à savoir le sang qui couvrait les péchés, puisque la parole de Dieu dit que hors de sang, il n'y a pas de pardon. Pour ça que, malheureusement, quand on annonce un évangile, excusez-moi le terme, à l'eau de rose, on oublie. On ne parle même plus du sacrifice de Christ, parce que c'est pas joli. C'est pas, hein, bon, un homme pendu sur une croix, c'est quand même pas très beau. Mais nous savons, l'Épître nous le dit, que c'est là que Christ a remporté la victoire sur Satan. Et on va le voir, parce qu'ici, on va voir justement quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, on est dans le lieu très saint. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Tout est important. Vous voyez, ici, il y avait donc des barres, on les voit ici, des barres qui tenaient les planches, qu'on appelle les ailes, les planches tenues les unes aux autres. Mais il y en avait une particulière, c'était une planche, on la voit ici, elle traversait de part en part toutes les planches et donnait une solidité. Et bien entendu, ça nous fait penser à ce lien qui est entre nous, l'amour. Si le lien est fort, l'amour entre nous est fort, et bien cet édifice tenait debout, et l'Église aussi. Malheureusement, les Églises ont complètement chuté parce qu'il y avait entre les membres des oppositions et tout. C'est infernal. Quand je dis infernal, je pourrais dire enfernal parce que ça vient de Satan. Satan, c'est le diviseur, il ne faut jamais oublier. Il faut lutter, je vous en ai parlé, il faut lutter contre toute pensée négative envers un frère ou une sœur. Ouais. Si je me laisse guider par l'ennemi, je deviens dans l'Église le bras armé de Satan. Et je plains ceux qui, même s'ils sont chrétiens, au tribunal de Christ, ils auront des comptes à rendre. Ouais. Et c'est très grave. C'est très très grave. Donc cette barre-là tenait, j'aime bien cet exemple, parce que c'est le lien de l'amour, c'est ce que nous dit Paul. Les planches tenaient les unes aux autres serrées. Vous savez, si jamais, entre deux planches, il y a un petit espace, je je laisse un petit espace. Autant là, c'est impossible de rentrer, autant s'il y a un petit espace, je prends un pied de biche et j'explose. Bien aimé, le Seigneur m'a demandé de nous aimer les uns les autres, et pas les paroles sur nous. En acte. Et c'est là que le Seigneur bénit. Et c'est là que le Seigneur est présent. C'était le psaume 33 ce matin. Combien il est bon, les frères et sœurs, de se retrouver ensemble, unis. Et il dit que c'est là que le Seigneur envoie la lumière. Les églises ne sont pas bénies, même s'il y a tout ce qu'il faut, un protocole, tout ce qui va avec, mais ne sont pas bénies. Parce qu'il manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Christ, et c'est l'amour de Christ. Alors voilà donc, alors ça c'est l'image est fausse, parce que le souverain sacrificateur ici est habillé en souverain sacrificateur, il ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Mais vous voyez, comme quoi il faut faire attention. Donc retirez tous ces habits somptueux, et voyez-le simplement habillé en blanc, comme les autres. Donc dans cette arche qui est ici, vous voyez donc ici les anges qui couvrent la sainteté de Dieu, eh bien il y avait donc trois objets. Il y avait les tables de la loi qui donnaient à l'homme la pensée de la sainteté de Dieu et de son œuvre, d'accord, on en a parlé un peu. Ensuite, il y avait un pot de manne en or, tout était en or. Merci les Égyptiens. Et il y avait une branche. Alors cette branche, la manne, bon, c'était pour le souvenir que Dieu, pendant dans le désert, ils avaient été nourris, ils avaient de quoi manger. Et la parole de Dieu dit que le pain qui vient du ciel, c'est Christ. Donc c'est cet aspect de Christ qui était présent. Alors ce bâton-là, c'est tout à fait étonnant. À un moment, bien entendu, comme toujours, comme souvent, dans le peuple juif, on a commencé à renoder en disant « Et pourquoi c'est Aaron ? Et pourquoi c'est pas nous qui sommes les chefs ?» Et tout, et tout, et tout. L'orgueil démesuré, même si Dieu a dit que c'était Aaron qui était dans le premier souverain sacrificateur, et bien les autres ont dit pourquoi pas nous. Alors Dieu a dit c'est très simple. Chaque tribu, donc les 12 tribus, chefs de tribu, vont mettre devant leur temple un bâton. Et je vais démontrer que c'est bien la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron, qui est celui que j'ai choisi. Ce bâton, il était mort. Il était mort, hein, il avait été coupé depuis certainement un moment et tout, et il ne portait plus de fruits, c'était fini. Et le lendemain matin, il est dit qu'il y avait non seulement des fleurs, mais également des fruits. Et ça, c'est le symbole de ce qui va se passer pour la résurrection. Pour la résurrection. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités avec Christ, hein. C'est important de savoir que nous sommes déjà ressuscités. Vous le croyez, ça? Mais ce n'est pas tout. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Bon, ce n'est pas comme sur des chaises comme ça. Mais assis, dans le langage biblique, ça veut dire une position d'autorité. Dieu nous donne une autorité. C'est pour ça que la réunion de prière a une autorité. Parce que nous avons de la part de Dieu cet esprit de résurrection qui est en nous et qui nous guide dans la prière. C'est ce qui est dit aussi. L'Esprit de Dieu donne des sujets de prière. Je me souviens une fois, il y avait quelque chose de tout à fait étonnant, mais je pense que vous l'avez connu. À l'époque, on passait des films au Vésiné. Et c'était donc, vous savez, 16 mm, un gros projecteur et tout, il y a déjà pas mal de temps. Et donc, on prie en famille avant de partir pour voir ces films. Et Marjolaine, ma cadette, dit: Seigneur, si ça tombe en panne, que ça remarche. Vraiment, c'était complètement impromptu. Complètement comme ça. Et on commence, et bien entendu, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et je dis à mon frère, qui était le projectionniste, ne t'inquiète pas, Dieu a donné par ma fille de prier, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, de prier afin que ça remarche. Effectivement, vous voyez comment le Seigneur, par son esprit, peut nous donner. donner des sujets de prière pile poil pour une occasion donnée. Oui. Ça, j'y crois. Vous y croyez, ça? Bien aimé, la réunion de prière, c'est dans l'inspiration de l'Église. On a dit qu'un homme à genoux était, aux yeux de Satan, plus dangereux que sans doute. La prière, le nombre, on pourrait faire une étude, le nombre de choses qui ont changé la face du monde par la prière de certaines personnes. Exemple Daniel. Mais il y en a d'autres. Donc ce bateau de résurrection nous parle de ce qui se passera pour nous parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, cette arche d'alliance, elle a disparu. Elle a disparu. On pense que quand les Romains sont venus, cet objet le plus sacré a été caché. On ne sait pas où, mais pour beaucoup de Juifs, pour le peuple juif, il est quelque part. Il est quelque part. Si on construit le temple, bien, à nouveau, je pense que Dieu donnera qu'on retrouve cette arche d'alliance, mais que, en réalité, l'arche d'alliance est un figure de Christ. Hein. L'arche d'alliance en elle-même n'a pas valeur, mais pour le peuple juif, elle en est une énorme. Alors, voilà donc l'arche d'alliance, vous voyez, des figurations. Alors, vous voyez, portable, toujours, puisque tout était démontable et remontable. Tout à fait logique. Voilà, donc, des images. Donc, c'était un coffre, hein, avec le propitiatoire et donc les trois objets dont on a parlé tout à l'heure. Un pot de manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Rien de bien fantastique, il n'y avait pas un trésor hein, en or. Alors je sais que certains, et même des films, de personnes qui recherchaient l'arche d'alliance. Bon, ça c'est une fiction. Alors donc, voilà, ça c'est juste le souverain sacrificateur, habillé en homme normal, en lévite normal, pardon, avait donc, avec, ici, allait entrer dans le lieu très saint pour mettre du sang sur cet objet, du tabernacle, de façon à ce que les péchés soient, alors pas effacés. La Bible nous dit que le souvenir des péchés restait. Mais comme ils avaient obéi à Dieu, Dieu en tenait compte. Alors le jour du Yom Kippour, donc le jour du pardon, voilà notre souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire que la Bible nous raconte. C'est dans l'évangile de Matthieu où nous est dit que donc le Christ est sur la croix, c'est dans Matthieu 27 verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Effectivement, le Christ dit Élie, Élie, c'est-à-dire pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Christ a-t-il été abandonné? Parce qu'il était couvert de nos péchés. Couvert de nos péchés, la colère de Dieu qui devait nous atteindre, qui devait m'atteindre, est tombée sur lui. Et même on peut dire que Dieu a épuisé sa colère. Il a épuisé sa colère sur son Fils, toute sa colère. Pour seulement quelques personnes, non, pour tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains. Mais ceci n'est valable que pour ceux qui croient. Ah, si ma soeur me fait un chèque de 10 000 euros, mais j'y crois pas. Je vais pas aller à la banque. Pourtant, le chèque, il est là. Ben, la foi, c'est ça. La foi, j'endosse, c'est un terme de banque, j'endosse le chèque. Par la foi, j'endosse le fait que Christ a porté mes péchés. Donc, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et on connaît dans un autre évangile quel était ce grand cri. Tout est accompli. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu, chapitre 27, verset 51. Depuis le haut jusqu'en bas. Autrement dit, le jour du Yom Kippour, au moment où sang d'un animal, ça montre très bien que tout ça, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est en Christ qui a tout accompli. Et donc le rideau, alors le dessin n'est pas très, très joli, mais on voit quand même, hein, il est là, il est effrayé, on aurait été, du haut en bas. Hein. C'est pas un être humain qui l'a déchiré, c'est du haut jusqu'en bas. Et c'est bien expliqué dans Matthieu. Le rideau s'est déchiré. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai passé les étapes, de mon péché sous le Christ, etc., etc. Si j'étais jusqu'au bout, ça y est, je peux entrer, non pas un, une fois par an, mais des millions, une fois par jour, tant que vous voulez, tant que vous voulez. C'est un miracle qui a eu lieu, afin que nous comprenions qu'enfin, si nous avons été jusqu'au bout, c'est pour ça que c'est l'évangile selon Moïse. C'est l'évangile selon Moïse. Ou c'est la voie d'accès jusqu'à Dieu. C'est l'évangile. Donc le rideau s'est déchiré du haut vers le bas. Et dans l'épître aux Hébreux, ça c'est donc Matthieu 27, 51, ce que je viens de lire, et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Tout est accompli. Tout est accompli. Trop souvent, moi une fois m'a dit, mais peut-être aussi, l'évangile c'est trop facile. Je me rappelle une grosse discussion qu'on avait eue avec des amis, des voisins, et donc c'est trop facile l'évangile. C'est trop facile. Parce que Dieu a tout accompli, mais nous on n'a plus rien à faire. Oh, on pourrait faire quelques petites choses quand même, comme dans le monde catholique ou dans le monde religieux, quelques prières ou quelques pèlerinages, quelques, pour obtenir le salut. Non. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Christ nous a ouvert le chemin et tout est accompli. Ça, c'est extraordinaire. Et malheureusement, dans le monde catholique, on peut aller aussi jusqu'à Dieu par Marie. Marie, maintenant, est co-rédemptrice. C'est-à-dire que pour avoir le salut, on peut passer par Christ. C'est compliqué que Christ, bon, et Marie, là. Femme, chat, écoute mieux, les enfants, les bébés comme nous sommes. C'est honteux, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est un faux évangile. C'est encore Satan qui est derrière ça. Donc, le rideau se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas. Tout est accompli. Pour notre salut, il n'y a rien à faire que de croire. Que de croire et encore croire. Quand on dit ça, certains disent c'est trop facile. Ben, crois. Si c'est facile, ben, crois. Surtout qu'il y a les arguments. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Donc, c'est une invitation. Il n'y a plus maintenant le moindre empêchement à ce que nous puissions entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire qui figure la personne de Dieu. Je peux maintenant m'approcher de Dieu parce que tout ce qui m'était, qui m'empêchait, mon péché résolu, le lavage de ma personne, parce que tous les jours dans le monde, etc., c'est fait aussi. Et puis, on voit aussi que les chrétiens, ce sont eux maintenant qui doivent entretenir le chandelier, hein, la vie de Christ dans l'Église, etc. Donc, Hébreux 10, 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, pas le sang d'un animal, une libre entrée dans le sanctuaire, par une route nouvelle, pas celle de l'ancienne alliance, et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous. Vous voyez, Matthieu nous rappelle le récit, Hébreu n'a pas été écrit par Matthieu. Nous, il explique aussi. Vous voyez comment dans la Bible, toutes ces concordances qu'il y a, c'est génial. Je me régale. C'est un régal pour nous. Et donc, on a bien, et je termine avec ça, cette première pensée, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc, c'était le but de la deuxième partie que je voulais terminer ce matin, mais c'est pas grave. C'est dommage, il y a beaucoup qui ne sont pas là. Ben, vous leur raconterez, si vous les voyez. D'accord. Alors, tu me donnes encore combien de temps ? Parce que la troisième partie, c'est notre rôle donc maintenant nous sommes sacrificateurs avec Christ. Alors qu'est-ce que c'est que sacrificateur? Ça veut dire prêtre. Ce matin quand nous avons chanté, quand des personnes ont prié, nous avons exercé notre rôle de prêtre. Alors ce rôle de prêtre, les premiers chrétiens l'avaient tous. Et puis peu à peu, l'Église en place a pris autorité et avec eux qui avaient le droit de prier en latin, je me rappelle de prier en latin, je ne comprenais rien du tout d'ailleurs, ils avaient pris le monopole. À la réforme, Luther a voulu, il n'a pas fait que du bien, mais ça c'était positif, il a voulu que le sacerdoce, vous compliquez là, c'est-à-dire cette capacité de louer Dieu, d'adorer, etc., devienne universel. Malheureusement, on aperçoit que dans les assemblées de manière générale, à nouveau, il y a quelques-uns qui prient. C'est pas normal. Nous sommes tous sacrificateurs. Alors, bien sûr, on ne va pas tous prier en même temps, c'est une cacophonie pas possible, mais nous devons prier. Bien sûr, on peut dire, moi je prie dans mon cœur. Bon, ben, d'accord, mais le Seigneur, le psaume n'a pas été écrit pour que ce soit dans ton cœur. Le psaume, ça veut dire chanter. Normalement, dans l'Église, il faudrait que nous apprenions, et ça je crois que ça vient de son Église, de prendre un peu plus de temps pour la louange aujourd'hui. Si toutefois vous avez des choses à lire, mais je pense que vous en avez, non? Alors, ça peut être une prière, ça peut être lire un passage, ça peut être lire un psaume, etc., etc. Il faut que chacun d'entre nous puisse exprimer sa louange et son adoration. Je me bats pour ça. Je veux faire ça dans les églises, et si j'avais l'occasion, ben, je vous montrerai l'enjeu de l'adoration. Et c'est extraordinaire comme sujet. Extraordinaire. Je pèse les mots. Donc, nous sommes sacrificateurs avec Christ. Alors, où est-ce que c'est écrit? Dans 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, ce n'est pas des pierres mortes, hein. L'église, ce n'est pas des bâtiments faits avec des pierres mortes, hein. Des pierres vivantes qui bougent, qui ont des pensées, etc. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, donc une sainte, comment dire comme terme autre, travail, oui, une sorte de travail spirituel, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous offrons non pas des animaux, mais nous offrons Christ. La seule chose que je peux offrir à Dieu au travers de mes chants, de mes cantiques, de mes prières, etc., c'est Christ. Et quand j'exalte Christ, je le fais, nous dit l'Épître, à la gloire de Dieu. Donc, quand je loue, quand j'adore le Seigneur, je présente non pas les animaux comme le peuple juif faisait, mais je présente Christ. Vous vous rappelez, les cornes sur lesquelles il y avait le sang, de façon qu'on puisse apporter une louange. Détail très important. Exode 19,6, on a vu ça la dernière fois, vous serez pour moi un royaume sacrificateur, une nation sainte. Donc au départ, c'est bien clair que Dieu voulait que tous les Juifs soient des sacrificateurs. Malheureusement, à cause de leur désobéissance, ça a été une tribu des Lévites et encore quelques-uns parmi les Lévites. Mais on voit très bien un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Regardez dans le Nouveau. Comment le parallèle? Dans 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, Un sacerdoce royal. Pourquoi royal? Parce que nous louons et nous adorons le roi des rois, le seigneur des seigneurs. D'accord? Donc, un sacerdoce royal, une nation sainte. Chaque église locale est une nation sainte, fait partie d'une nation sainte. Quelquefois, je me dis, quand j'étudie le tabernacle, on l'a étudié un peu ensemble, on a vu comment c'était sérieux. C'était très sérieux. Et je ne vous ai pas donné tous les exemples, mais l'habit, on parlait des habits ce matin. L'habit des sacrificateurs, c'est quelque chose de précis. La cuve des reins, c'est quelque chose de précis. Si tu passes à côté, tu risquais la mort. Tu risquais la mort. Aujourd'hui, dans les églises, ayant perdu cette vision, quelquefois, c'est du tout et du n'importe quoi. Au lieu d'apporter quelque chose au Seigneur, on vient apporter son désagrément vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur que je ne vais même pas saluer. C'est une honte. C'est une honte, bien-aimé. Nous sommes là et il dit qu'il ne paraîtra pas vide devant l'Éternel. Dimanche matin, normalement, nous sommes tous conviés à apporter quelque chose au Seigneur. Louange, adoration, verset, etc. Tous. Si je parle de ce sujet, vous verrez la bénédiction qui est attachée au fait qu'on apporte la louange et l'adoration. Vous allez être surpris. Surpris. Vous êtes un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. À quel prix nous avons été acquis? Hey, pas en monnaie, hein? La vie de Christ, nous sommes son peuple. Son peuple. Et j'aime ce passage d'Apocalypse où il dit que vous avez toutes les nations, de toutes tribus qui adorent l'agneau. Même ceux qui l'ont percé. Donc, comme quoi le peuple juif a l'agneau? Parce que qui sont ceux qui l'ont percé? Les juifs. Vous lisez ça, c'est dans le début d'Apocalypse où je vous vois. Donc, et cette nation sainte, son premier rôle, c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà en quoi consiste notre sacrificature en tant que prêtre. Annoncer, annoncer. Dans certaines assemblées, le culte, la louange dure une demi-heure. Nous, à l'Empire, une demi-heure tranquille, on est moins nombreux, mais c'est pas grave. Lire le psaume 23, par exemple, ça dure 30-40 secondes. Alors, est-ce que vous êtes quelque part, on a un peu peur, un peu... Puis il y a les frères qui ont des prières ou des sœurs. Kilométrique. Qui fait que... c'est un peu toujours la même qui prie. Non? Alors, on ne regarde pas l'autre. Hein. Vous êtes tous, on est tous responsables. Parce qu'on est tous appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'Église de Jésus-Christ, et il y a de très beaux passages qui parlent de ça, sa faiblesse, souvent, c'est le manque d'application de ce verset. Pas de ce que dit Robert, de ce que ce verset. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume, encore une fois, ça c'est dans l'Apocalypse, c'est pas dans Pierre. L'Apocalypse c'est Jean. Donc une autre voix qui dit exactement la même chose. Qui nous a un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire que dans l'éternité, nous serons des prêtres. Quand je parle de Nicodème, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, le Seigneur est merveilleux. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, il fait pour toi, pour toi, pour toi. C'est la louange. Ça va durer longtemps. Ça va durer l'éternité. Bon, le temps n'existera plus comme aujourd'hui. Il n'y aura plus de monde, il n'y aura plus tout ça, mais je sais que quand on va voir rencontrer ces gens que nous aimons parce qu'ils sont dans la Bible, eh bien, on va parler, on va donner un témoignage. ces témoignages sont à la gloire de Dieu. Donc, dans l'éternité, nous serons des prêtres pour Dieu son Père. Heureux et saints, Apocalypse, ça c'est la fin de l'Apocalypse pratiquement. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Est-ce que vous êtes certains de participer à la première résurrection?
Amen.
Qui ne sait pas ce que ça veut dire? N'hésitez pas. Tout le monde sait ce que c'est la première résurrection. Quelles sont les prémices de la première résurrection? Qui est le premier ressuscité de la première résurrection? Le Christ n'est pas ressuscité des morts, il est ressuscité d'entre les morts. Et nous, les chrétiens, nous ressusciterons d'entre les morts. C'est pour ça que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ceux qui ont part à la première résurrection, ça veut dire qu'ils ont accepté l'Évangile. Lorsque le Seigneur paraîtra, on vous a dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, tous ceux qui sont morts en Christ, aussi bien ceux qui sont décédés que ceux qui sont encore vivants, nous serons enlevés, et donc ceux qui sont morts participeront à la première résurrection. Ce sera la grande majorité, hein, parce que depuis 2000 ans, ceux qui sont morts en Christ, il y en a un paquet. Hein. Merci Seigneur. Mais il y en a encore d'autres. Donc nous serons enlevés, et ce sera la première résurrection. Et la deuxième résurrection qui aura lieu à la fin, c'est la résurrection de jugement. Donc, heureux sont ceux qui ont peur à la première résurrection. Vous êtes certains d'être participants de la première résurrection? Pas de doute, hein. Si vous avez un doute quelconque, demandez à Dieu de vous parler, on peut en parler un peu avec vous, avec vos frères, pour être certain de ces choses. Ça va être merveilleux, ça. Combien j'aspire à ce moment-là? Pas vous? J'en ai marre de ce moment. J'en ai marre de ce moment. J'en peux plus de ce moment. Bien, donc, qu'est-ce qu'ils seront? Apocalypse, dans la fin des temps. La mort, la seconde mort, l'enfer, n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs. Donc, nous sommes déjà sacrificateurs et nous serons dans l'éternité sacrificateurs. Et quand nous nous présenterons devant Dieu, j'arriverai devant Dieu, je dirai, tu sais Seigneur, j'ai un super compte en banque, j'ai deux maisons, quatre voitures, une Rolls. Non, c'est pas ça. Voilà celui qui m'a sauvé et que tu aimes. Voilà. C'est la seule chose que je peux t'offrir. Donc nous serons sacrificateurs pour l'éternité. Alors, de Dieu et de Christ. De Dieu et de Christ. Comme quoi les deux, c'est pareil. Alors, une image de la vie chrétienne avec ses trois points forts, les trois S. Alors, S comme, la première chose, S comme, bravo, S comme salut, voilà, S comme salut. Là, ça c'est la première chose, le salut. La deuxième chose, c'est sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est la transformation de mon âme. Quand nous sommes venus au Seigneur, ce sera encore un sujet tellement important. Quand nous sommes venus au Seigneur, notre esprit est né de nouveau. Mais notre âme est encore chargée par tous les problèmes que nous avons pu avoir, les coups que nous avons pu avoir, pas forcément physiques, hein, les difficultés, les stress, l'éducation, etc. Et la sanctification, c'est la guérison de l'âme. C'est-à-dire que je veux que mon âme soit purifiée, dégagée, de façon que je puisse adorer Dieu de toute mon âme. Vous comprenez? Et ça, c'est la sanctification, un mot un peu barbare, mais on peut remplacer, parce que c'est un mot qu'on voit souvent, la guérison de l'âme, ou le salut de l'âme. Votre esprit est sauvé si vous êtes enfant de Dieu. Mais votre âme, vous savez vous-même ce qui a changé dans votre âme. De compassion pour les frères et sœurs, les aimer davantage le Seigneur. Et celui qui est orgueilleux, Seigneur, guéris-moi d'être orgueilleux. J'en peux plus de cet orgueil qui ravage ma vie, qui fait que je veux être toujours supérieur aux autres, etc. Seigneur, délivre-moi. Sanctifie-moi, je veux être comme toi. c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit dans notre âme, et bien ce sont toutes ces choses, l'amour, etc., comme c'est la fidélité. L'Église a besoin de gens fidèles. Combien de chrétiens voudraient entendre de la part du Seigneur, viens bon et fidèle serviteur. Fidèle, c'est ce que c'est en nous. Fidèle. Malgré les difficultés. Regardez la vie de l'apôtre Paul et vous comprendrez qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Et enfin, le service. Voilà. Malheureusement, certains chrétiens n'ont pas compris que c'est eux qui devaient être serviteurs des autres et non pas les autres qui devaient être leurs serviteurs. Le Christ a été le serviteur de tous, c'est un exemple. Il a dit, je ne suis pas venu être pour servir, mais pour servir. Les trois, rappelez-vous, salut, sanctification et le service. Nous sommes sauvés pour servir. C'est clairement écrit. Et j'aime bien la maxime des pompiers. Vous connaissez la maxime des pompiers ? Sauver ou périr. Et nous, notre maxime, ça va être ça. Sauver pour servir. Servir, sortir pour servir. C'est bien ça. C'est... Pour l'évangélisation, je pense que vous avez écrit ça. Voilà. Donc, c'est un désir. Je veux te servir. Et tout le monde, et je dis bien tout le monde dans l'Église, tout le monde a un service à faire. Même passer l'aspirateur, Seigneur, je veux que ta maison soit belle, je passe l'aspirateur. Est-ce qu'il y a des petites choses et des grandes choses ? Oui. Oui. Selon la mesure de foi que nous avons reçue, selon les capacités que le Seigneur nous donne. Mais celui qui avait dit pièce, le Seigneur lui a dit bien bon et fidèle serviteur. Entre dans le jeu de ton maître, et celui qui n'avait que 5, le Seigneur lui a dit, bon, toi c'est moi, mais non, les mêmes mots. Donc Dieu a donné à certains des capacités que d'autres n'ont pas, et c'est pour moi. Mais en tous les cas, ce que j'ai à faire, je le fais avec fidélité. Fidélité. Je ne suis pas là quand ça va bien, et je ne suis pas là quand ça ne va pas bien, je suis là toujours. Toujours. Et c'est vrai que dans nos églises, on a besoin d'apprendre la fidélité. Je viens à un rayon de prière, j'insiste, hein, je viens à un rayon de prière, je viens pour adorer le Seigneur, et non pas simplement quand je suis la fidélité. Et je loue le Seigneur lorsqu'il y a des frères, je connais, qui sont fidèles, même dans les petites choses. Vous avez certainement des frères qui préparent le païen, non ? Oui. Mettons qu'un jour vous oubliez. On est malade. Il n'y a pas de vin. Ah ! Ou il n'y a pas de pain. Ah ! Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vu ça, j'ai vécu. Dans une assemblée qui était un peu. Mais ils étaient très fidèles, un peu. Ils étaient merveilleux. Je vous le dis, ils étaient merveilleux, mais ils étaient un peu. Bon, c'était dans le sud de la France et waouh ! Quelquefois, bon, c'était un peu dérangeant pour moi, qui suis carré. Bref. Mais ils étaient très sérieux. Alors, les conditions particulières pour être sacrificateur, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais ce n'est pas grave. Alors, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, les différences essentielles. Dans l'Ancienne Alliance, c'était la lignée d'Aaron. Le souverain sacrificateur, sur l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire qu'on était sacrificateur de père en fils, parce qu'on était lévite, donc il y avait la nomination à chaque fois d'un nouveau sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, c'est pas la lignée d'Aaron, c'est la lignée de Christ. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors moi je ne peux pas parler de Melchisédek, c'est un peu long, mais on a ça dans l'Ancien Testament. Donc, tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. On n'a pas besoin d'appartenir à une tribu particulière comme les Lévites. D'accord ? Donc c'est déjà complètement différent. Ensuite, c'était une classe particulière des Lévites qui avait part au saint sacerdoce. Alors que nous, tout véritable enfant de Dieu a part au saint sacerdoce. Vous voyez les différences, elles sont quand même essentielles. Vous voyez bien là, parce que je vais peut-être lever un peu, non ? Ça va ? Ensuite, le temple, était extérieur à l'homme. Alors que dans la Nouvelle Alliance, chaque chrétien est un temple et une pierre vivante de la maison spirituelle de Dieu, l'Église. Donc, avant, le temple était là, on lit souvent les versets, je crois qu'ils ont été lus, combien David dit, combien j'aime entrer dans ta maison. Oui, mais la maison n'est pas construite. Ah oui. Lisez les psaumes de David, combien de fois il dit j'aime entrer dans ta maison et la maison n'est pas construite. C'est son fils Salomon qui est construit. Mais déjà, je pense qu'il a la vision d'une autre maison, comme dans Hébreux 11, hein, la cité céleste. La cité céleste. Condition pour être, pour exercer la sacrificature. Alors, ils étaient, là je vais pouvoir tout expliquer, mais c'est pas grave. Ils étaient lavés avec de l'eau. Tous les sacrificateurs devaient être entièrement lavés. Pour nous, on verra. Ils étaient revêtus de leur tunique, de leur ceinture et de leur tiare. On l'a vu, hein, les dessins. Ils étaient oints d'huile. Et il fallait pour eux un sacrifice d'un taureau, sacrifice pour le péché, 7 jours. 7, c'est le chiffre de la perfection. À chaque fois que vous voyez le chiffre 7 dans votre Bible, vous savez que ça rime avec la perfection. Donc voilà. Alors, le sacrifice d'un premier bélier, le sacrifice d'un second bélier, de consécration ou d'investiture, et l'offrande de gâteaux et de galettes sans levain. Il fallait tout ça pour qu'un sacrificateur puisse avoir la sacrificature, donc qu'il puisse être prêtre. Et nous, est-ce qu'on a toutes ces choses, d'après vous? Ben oui, je vais vous montrer, on a toutes ces choses. Avec de l'eau, le moyen. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. L'eau liquide devient l'eau spirituelle. Mais la parole de Dieu nous lave. C'est l'outronne, c'est pas un baptême, ça n'a rien à voir avec le baptême. Hein. J'ai besoin d'être lavé, d'être purifié de ma vie dans le monde, hein, de tout ce qui se passe et tout, des pensées mauvaises et tout. J'ai besoin d'être lavé. Donc, le moyen pour être lavé, c'est la lavant par l'eau de la parole. Le but, on l'a vu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, déjà, le premier point est entièrement fait par le Christ. Ensuite, c'est Hébreux 10, 22, notez juste les parallèles si vous voulez. On a vu également comment Pierre, qui ne voulait pas se faire laver par le Christ lui a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. On a vu ça quand on étudiait la crise des reins, dont l'intérieur était tapissé par des miroirs, offerts par les... Merci les sœurs. Dans le rôle, dans l'église, les églises, style d'église, ou les rôles, les sœurs n'ont aucun droit. Je dis bien aucun droit. Même pas prier. Ensuite, allez voilà, ils seront très beaux. Revêtus de leur tunique, de leur ceinture, de leur tiare, et donc tu en revêtiras Aaron, ton frère, ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Est-ce que nous avons revêtu une tunique? Le matin, vous arrivez ici, distribution de tunique. Ce serait sympa, non? Ce serait drôle. Est-ce que nous avons revêtu une tunique? Ben oui. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons revêtu, non pas une tunique physique, mais une tunique spirituelle. C'est pour ça que nous avons la capacité, en revêtant l'homme nouveau, suite à cette vie nouvelle, que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Éphésiens 4, 24. Tu feras une huile pour l'onction sainte, tu oindras Aaron ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Est-ce que nous avons été oints? Est-ce que nos frères, le matin, quand nous sommes arrivés, nous versent quelques gouttes d'huile sur la tête? Non? Non. Le Christ lui-même a été oint, acte 4, 27, mais en plus, pour vous, évangile, première épître de Jean, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Combien j'aime la parole de Dieu. Combien vous l'aimez, je sais. Parce que tout est clair. Oui, nous avons été oints. C'est-à-dire, nous avons été choisis, nous avons été donnés, sanctifiés, par cette huile. Et l'huile, c'est le symbole, évidemment, du Saint-Esprit. Troisième. Quatrième. Le sacrifice d'un taureau. On l'a lu. Tu amèneras le taureau, je ne vais pas tout lire, parce que sinon, ça va être trop long et je ne vais pas prendre de temps. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament concernant cette affaire. Pour nous, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez de Dieu vivant. Donc, eux, ils avaient des animaux. Nous, c'est encore la vie de Christ qui s'est offerte afin que nous puissions être sanctifiés et être rendus capables de venir dans la présence de Dieu. Un holocauste à l'éternel. S'offrir. On offrait un bélier. On offrait un bélier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé avec un bélier ce matin? Non, donc vous n'êtes pas des sacrificateurs. Mais si vous êtes, parce que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Donc, avant, ils offraient un bélier de consécration, une sorte d'offrande. Nous, ce n'est pas un bélier que nous amenons, c'est nous. Ce verset 12, ce chapitre 12, verset 1 de Romains, est fort. Hein. Paul nous dit, je vous encourage, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à cause de l'amour qu'il a eu pour vous, à cause de l'amour qu'il a eu pour vous, de vous offrir comme un sacrifice vivant. Seigneur, je m'offre à toi. C'est la consécration. C'est une étape dans notre vie chrétienne. C'est une étape. Je me consacre à toi, Seigneur. Je me consacre à toi. Je m'offre à toi. Tu le mérites. Il n'y a rien d'extraordinaire, puisque Paul nous dit, c'est un sacrifice vivant qui est raisonnable. Pas exceptionnel, raisonnable. Romains 12, 1. Alors, donc, encore la définition dans l'Ancien Testament, mais je vais intervenir sur la fin. Tu prendras du sang de ce bélier, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Ça peut sembler un peu bizarre, ça. Mais non, c'est pas bizarre. L'oreille. Le lobe de l'oreille droite. Du sang. C'est-à-dire que maintenant, c'est le symbole d'une écoute purifiée et de l'obéissance aux demandes de Dieu. Seigneur, j'écoute ta voix. Le lobe de l'oreille. Seigneur, je veux que maintenant j'ai une écoute. Mais pas une écoute, simplement. Écoute, je veux aussi qu'il y ait de l'obéissance. Ensuite, la main. Le pouce de la main. Le pouce dans une main, c'est ce qui tient. Vous savez que ceux qui n'ont pas de pouce, hein, ne peuvent pas avoir une prise sérieuse. Donc, le pouce, c'est le symbole de nos actions purifiées et soumises au Seigneur. Le pouce. Ma main, maintenant. Avant, elle faisait des choses qui n'étaient peut-être pas très correctes. Mais dit l'apôtre Paul, mais maintenant, offrez vos corps, et en particulier donc, le pouce de la main droite. Le pied, le gros orteil, eh bien, c'est le symbole de notre marche spirituelle, purifiée et guidée par le Saint-Esprit. Donc, ce qui est un peu étonnant, si tu sors de l'œuvre, de main, du pied, en réalité, c'est des symboles très précis. Je veux que mon écoute ta parole, Seigneur, et l'obéissance. Ensuite, ma main, pour te servir. Oh, regardez comme elle est belle, la main de quelqu'un qui donne des traités. Et le pied, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est biblique. Donc, Seigneur, je veux que mon oreille, ma main, les pieds, soient à tes services. Dans une soumission totale. Mais alors, soumission, c'est pas le directeur de pays, hein. Seigneur, donc il nous encourage. On en était où? 7. Dernier. L'offrande de pain, de gâteaux et de galettes sans levain, c'était un peu quand même la fête. Hein. On mangeait des gâteaux parce que c'est un symbole de. Mais sans levain. Oh là, pourquoi sans levain? Du pain azim. Vous connaissez le pain azim? Peut-être C'est ce que vous avez dimanche matin ?
Oh,
c'est bien, vous êtes... vous rigolez, mais il y a une assemblée qui a eu un schisme. Parce que certains diront, ben, si c'est passé, maintenant, on peut prendre le pain en main. Vous voyez un peu les sujets de dispute ?
Alors, ben voilà la réponse. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. La fête. Non avec du vieux levain, non avec des levains de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, une fête, oui.
Est-ce que vous aimez faire la fête pour l'Éternel ? Certains, vous avez entendu, quelqu'un dit qu'il y a des anniversaires. Nous, quand il y a un anniversaire, on prie pour la personne. C'est un exemple, hein. Et c'est la fête. Généralement, d'ailleurs, après, souvent, on fait un petit pot, etc. Une petite fête. On remercie le Seigneur pour le frère, pour la sœur qui est le Seigneur mis parmi nous. C'est la fête. Mais attention, sans levain. Donc, s'il y a du levain en vous, c'est quoi le levain ? C'est dit ici, le levain de malice et de méchanceté. Bon, c'est pas notre cas, hein. Pas notre cas ici, hein, personne. Hein, ici, on n'a que du pain sans levain. Hein. Il n'y a pas de malice, il n'y a pas de méchanceté. Hein. Les autres, oui. Parce que on est quand même ici, Argenteuil, il est modèle.
Oui. N'ayez pas de complexe d'infériorité. Dans l'Ancien Testament, les offrandes de pain, de gâteaux et de galettes étaient le plus souvent associées à des moments de fête. C'est l'état d'esprit qui doit se manifester dans notre service pour Dieu. Cette joie se partage avec celle de notre Dieu. Alors, Néhémie 8 dit, ça c'est le top, enfin. La joie de l'Éternel sera notre force.
Tout ce qu'on fait, on le fait pour moi, parce que je le fais, parce que Seigneur, je le fais parce que je veux te donner de la joie. Est-ce que ce matin, j'ai pensé d'ailleurs, est-ce que ce matin notre culte a donné de la joie à notre Père Céleste ? J'espère, hein. Hein, on était unis, on a prié, on a chanté, on était heureux. Mais c'est comme un papa qui voit ses enfants heureux. Un papa qui voit ses enfants heureux, il est heureux. La joie de l'Éternel sera notre force. Souvent, c'est un verset qui m'a beaucoup.
Et quand, c'est dans Néhémie, ça, hein. Néhémie, c'est le bâtisseur. Rappelez, hein. C'est quand ils ont reconstruit Jérusalem, qui avait été dévastée. La joie de l'Éternel sera notre force. Et ils bâtissaient, et vous êtes des bâtisseurs d'église.
Et c'est la joie de l'Éternel, Seigneur. On va faire un cadeau ce matin. On va tous se réunir dimanche matin. On va te louer. On veut que tu sois heureux. Voilà une motivation excellente. Rendre notre Père Céleste heureux. Néhémie 8, 10.
Bon, rapidement. Hein. Alors, tout ce qui est révolu, hein, bien sûr, par rapport à l'Ancien Testament, là encore, alors hop, les sacrificateurs étaient médiateurs de l'alliance entre Dieu et le peuple. Quelque chose de terrible dans le peuple juif, c'est quand le souverain sacrificateur mourait.
Parce qu'il n'y avait plus d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Il était l'intermédiaire. C'est ce que les prêtres catholiques ont voulu faire. Avec les intermédiaires. Qui est notre intermédiaire pour nous ?
Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancienne Alliance, offrande de sacrifices d'animaux pour le péché, hein, on a vu ça ce matin, enfin, comment ils apportaient des animaux, etc. Aujourd'hui, nous offrons l'agneau de Dieu qui s'est offert une fois pour toutes pour le péché. Voilà. Nous offrons Christ. Par des chants, par des cantiques. Offrande de sacrifices d'animaux en action de grâce. Il y avait au moins 7 types de sacrifices dans l'Ancien Testament.
Je ne vais pas tous les donner parce que sinon, les sacrifices pour le péché, pour action de grâce, pour ceci, pour cela.
Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Offrande de sacrifices spirituels, prière de louange et d'action de grâce par Christ. Voilà. L'Ancienne Alliance, la nouvelle alliance.
voyez, c'est quand même très différent. Alors, rapidement, les différents ministères et services des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Alors, dans le parvis, je vous ai dit ce matin, ils veillaient que rien de profane ne rentre dans la maison de Dieu. C'était leur travail. Et si quelque chose de profane, profane ça veut dire qui vient du monde, hein, d'accord, voulait entrer, non. Donc, veillons à ce que rien de profane ne rentre dans l'église, dans le parvis. Dans le lieu saint, c'est pareil, on en a parlé, donc tous les jours, nous devons, en tant que sacrificateurs, demander au Seigneur de nous transformer. Je rappelle que la cuve était tapissée de miroirs offerts par les femmes. Pour le chandelier, la lumière de Christ, qui doit complètement briller, est-ce que la lumière de Christ brille au milieu de nous? Ben oui, surtout à Argenteuil. Je suis taqué un peu, mais j'espère, j'en suis sûr même. Je sais que vous aimez le Seigneur. Continuez, parce que la lumière de Christ brille. Et vous savez que la lumière, c'est ce qui attire. Les gens sont attirés par la lumière. Je vais vite, hein. La table des pains, nous nourrir de Christ. Nous nourrir de Christ, on l'a vu. Et l'autel des parfums, offrir donc notre louange et notre adoration. Alors, la bienheureuse, bon, j'en ai parlé. Ah, pardon. Christ, la lumière du monde, on a vu ça également. Et puis 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même en lumière, nous sommes mutuellement en communion. La communion entre chrétiens et chrétiennes dépend de cette lumière qui va être entre nous. Malheureusement, quelquefois, il y a des personnes dans les églises avec lesquelles c'est facile de communiquer. Et puis d'autres, c'est plus compliqué parce que vous sentez qu'ils mettent un no man's land entre vous. Responsable d'église en particulier, même avec les autres, et quelquefois même, le coût de la communication devient tellement cher que les responsables sont découragés et puis laissent faire. Et on aimerait tellement pouvoir participer et être dans la lumière. Est-ce que je suis dans la lumière avec toi, ma soeur? Si on n'est pas dans la lumière tous les deux, ben, le Seigneur ne peut pas intervenir. Il faut que nous soyons dans la lumière les uns avec nous. Et c'est l'un des choses que ça nous demande. La table des pains, bon, je passe, on en a parlé. Voilà, donc nous nourrir de Christ, hein, je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Nous sommes sacrificateurs, donc nous avons le droit, spirituellement, de nous nourrir de ces pains qu'on a vus tout à l'heure. L'autel des parfums, c'est pareil, je rappelle, hein, notre louange et notre adoration devraient être faites au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une phrase rituelle, ça. Hein. Souvent, on prie en disant, à la fin de la prière, au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas que ma prière va aller jusqu'à toi parce que je la fais passer par Jésus-Christ. D'ailleurs, le Christ l'a dit, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom. Je crois que c'est la fin, de toute façon je vais arrêter. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur.